Deutsche Welle. Droits et libertés.
700 000 Rohingyas environ ont dû fuir les violences de l'armée birmane l'année dernière et ils attendent toujours au Bangladesh de pouvoir rentrer chez eux, tandis que leurs conditions de vie précaires se détériorent avec la mousson. Et puis 5 ans après la destitution de Mohamed Morsi en Égypte, le régime d'Al-Sisi continue de faire taire toute voix discordante. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Les réfugiés, les Européens n'ont que ce mot-là à la bouche en ce moment et pourtant, comme nous l'avons déjà expliqué sur cette antenne, l'Union européenne est loin d'être la zone du monde la plus touchée par le phénomène de l'immigration. En 2017, les Nations Unies ont estimé que la crise des réfugiés qui prenait le plus rapidement de l'ampleur dans le monde, c'était celle des Rohingyas, cette minorité musulmane persécutée l'année dernière donc par l'armée birmane et contrainte de fuir en masse, notamment vers le Bangladesh voisin. Pour beaucoup, ces personnes qui ont fui le Myanmar en 2017 vivent toujours sous des tentes de fortune dans des camps au Bangladesh où la mousson a commencé. Les pluies inquiètent les ONG qui craignent de voir les abris balayés par l'eau ou des épidémies comme le choléra refaire surface. En théorie, le Bangladesh, la Birmanie et les Nations Unies se sont accordés sur un retour de ces réfugiés, mais pour l'heure, celui-ci est loin d'être effectif. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui s'est rendu sur place en début de semaine, a pu s'en rendre compte par lui-même. Les Rohingyas vivent dans des conditions exécrables et beaucoup sont traumatisés par les violences qu'ils ont fui, à l'instar de Hassina, mère de 4 enfants.
Depuis ma cachette, j'ai vu mon fils tenter de fuir. Mais il y avait tellement de soldats dans le village qui l'ont abattu avant de le jeter dans les flammes.
Le fils aîné de Hassina est donc mort brûlé par les soldats birmans lors de l'attaque de leur village. C'était en 2017. Elle a pu fuir avec son plus jeune fils, mais elle ne sait pas où sont ses 2 autres enfants ni son mari. Mossadeka, elle, a 10 ans. Elle a dû traverser un grand fleuve pour trouver refuge. Elle raconte que sa sœur a été tuée par des soldats birmans.
J'avais tellement peur. Ils ont découpé des gens en morceaux. Je suis partie en courant avec mon père.
Alors bien sûr, il est difficile de vérifier ces dires puisque les villages qu'ont quittés ces Rohingyas sont inaccessibles pour le moment à tout observateur indépendant. L'armée de Birmanie prétend que les villages des Rohingyas ont été attaqués par des rebelles musulmans. Des journalistes birmans disent eux en off que c'est bien l'armée qui a provoqué les violences dans l'espoir d'affaiblir Aung San Suu Kyi. Cette prix Nobel de la paix, désormais au pouvoir en Birmanie et qui a été très critiquée pour son manque de réaction lors de l'explosion de violence de l'année dernière, l'Américain Bill Richardson a participé à la médiation entre les Rohingyas et l'État birman, le Myanmar. Écoutez son analyse.
Aung San Suu Kyi craint de prendre position contre les militaires. Elle ne dit pas aux soldats qu'ils doivent cesser leurs atrocités. Elle a peur de l'armée et elle veut être réélue. C'est une position totalement amorale.
Des manifestants dans le monde entier ont multiplié les critiques vis-à-vis d'Aung San Suu Kyi. Sur leur banderole, on pouvait lire notamment « Le silence est un crime de guerre ». Peut-être vous souvenez-vous aussi de Desmond Tutu, ce héros sud-africain de la lutte anti-apartheid, qui est également prix Nobel de la paix, qui est même sorti de sa réserve habituelle pour réclamer à la dirigeante birmane de faire quelque chose pour éviter ce bain de sang à tout prix. Aung San Suu Kyi a fini par sortir de son silence.
Il y a toujours eu des conflits entre les musulmans et les autres habitants de cette région de notre pays. C'est un problème très complexe. Nous ne pourrons pas le régler en un jour. Il n'y a pas de solution simple.
La plupart des Rohingyas vivent désormais au Bangladesh, un pays qui compte 2 fois plus d'habitants que l'Allemagne, sur un territoire 2 fois plus petit. Pour pouvoir rentrer en Birmanie, il faudrait garantir aux Rohingyas qu'ils pourront vivre en sécurité, que leur dignité sera respectée et que les conditions leur permettront une existence sereine sur le long terme. Une perspective qui semble encore bien loin aux réfugiés qui survivent en ce moment sous des tentes au Bangladesh.
La fin de la torture chez nous, moi ça fait 45 ans que j'endure ces tracasseries depuis que je suis petit. Je ne rentrerai que si cela prend vraiment fin.
Et en attendant, Sayadour, qu'on vient d'entendre se bricole des latrines qui, elles aussi, sont emportées lors des glissements de terrain et l'eau des nappes phréatiques devient alors inconsommable. Le Bangladesh réfléchit à parquer les réfugiés Rohingyas sur une île du golfe du Bengale, ce qui les isolerait davantage encore. Les autorités veulent en effet éviter les tensions qui grandissent avec les riverains qui se retrouvent en minorité dans certains villages où les prix et la criminalité montent, où le déboisement s'accélère, ce qui augmente encore les ravages de la mousson.
Il y a quelques mois, nous avons construit une tente sur cette colline. C'était notre nouveau chez-nous. Et puis, il y a quelques jours, il a plu fortement et toute la colline, avec toutes les tentes dessus, s'est effondrée.
Au lieu de voir s'amorcer le mouvement du retour vers la Birmanie, l'ONU craint désormais que la population bloquée au Bangladesh ne s'accroisse encore. Pour des raisons mathématiques, au moins 13 000 femmes Rohingyas ont été violées avant leur fuite depuis août dernier. Donc le nombre de bébés nés ou sur le point de naître de ces viols pourrait bien se chiffrer à 50 000 nouvelles bouches à nourrir. En Égypte, ça fait 5 ans cette semaine que le président islamiste démocratiquement élu, Mohamed Morsi, a été renversé par l'armée et placé derrière les barreaux par son successeur, Abdel Fattah al-Sissi. Ce dernier a été réélu au printemps 2018 dans des conditions contestées par les défenseurs des droits de l'homme et une partie de l'opposition. Depuis son accession au pouvoir, le régime al-Sissi a redonné un tour de vis. Les arrestations se multiplient, les accusations de torture aussi envers les forces de sécurité. La surveillance des citoyens se fait plus pressante et il est dangereux d'exprimer des critiques.
Hamzem Abdel Azim, militant politique de longue date. Wael Abbas, célèbre blogueur. Shadi El Khazali Harb, militant politique. Ismail Iskanderani, journaliste. Haitham Mohamadin, avocat de gauche.
Toutes ces personnes ont été raflées ces dernières semaines en Égypte. Des milliers de militants, de défenseurs des droits de l'homme, d'opposants vivent désormais en prison.
My name is Mahinour El-Masri, I'm a lawyer.
Mahinour El-Masri est avocate, donc elle a connu de près la répression, elle aussi. Depuis le début de ce qu'on appelle le printemps arabe, il y a 7 ans, elle lutte pour plus de démocratie, de droit en Égypte. Et c'est pas facile.
The situation is very hard, especially that...
En ce moment, la situation est très compliquée, surtout depuis la réélection d'Al-Sissi. Beaucoup parmi nous, les militants ont été emprisonnés, mais certains ont perdu la vie ou ont fui à l'étranger. Le problème, c'est que les Égyptiens ont perdu tout espoir de changement.
Many people are feeling very down and that they have lost hope.
À 32 ans, Mahinour a elle-même séjourné en prison pendant presque 2 ans en tout. Elle a été libérée il y a quelques mois et depuis, elle est surveillée de près, écoutée, suivie en permanence. Et ce qu'elle a vécu en détention, c'était l'horreur.
J'ai dépassé le stade de la peur, c'est compréhensible. Il n'y a pas le choix, si je me tais, on me fera la même chose. Je continue à me battre pour un système meilleur, plus humain. Je continue à parler ouvertement, peut-être que c'est ce qui me protège. Je ne peux plus revenir en arrière. C'est le positif et le négatif dans une révolution. On ne peut pas revenir en arrière.
Mahinour reproche au président Al-Sisi de toujours jouer la même carte en Égypte comme à l'étranger, les réfugiés et la lutte contre le terrorisme, et sous couvert de lutte contre le terrorisme, de tuer chaque espace de liberté, ce qui malheureusement, selon elle, continue de cultiver le terreau de ce même terrorisme que l'État prétend combattre.
Soyez-en rassurés, nous sommes très appliqués en matière de droits de l'homme. Nous essayons, dans la lutte contre le terrorisme, de maintenir un équilibre entre les droits humains et les mesures de sécurité.
Voilà ce que déclarait le président Al-Sisi en 2017 lors de la visite au Caire de la chancelière allemande Angela Merkel. Bien sûr, les opposants égyptiens tiennent, eux, un autre discours. Shadi El-Hazeli Harp fait partie des militants qui ont été arrêtés il y a peu. Il est le fondateur d'un parti libéral et l'une des voix qui ont marqué la révolution en Égypte de 2011. La justice lui reproche maintenant son appartenance à une organisation terroriste, les Frères musulmans, et de propager de fausses informations sur l'Égypte. Shadi El-Hazeli Harp avait donné une interview quelques semaines avant son arrestation au studio de l'ARD au Caire.
Beaucoup de mes amis sont en prison, soi-disant parce qu'ils appartiennent à un groupe interdit. Ce sont des accusations typiques. Moi aussi, on peut me placer en garde à vue n'importe quand. Certains y croupissent depuis plus de 2 ans sans qu'aucune plainte n'ait été officiellement déposée. C'est la manière habituelle de punir les militants comme moi. Mais je suis prêt à payer ce prix. Bien sûr que j'ai peur, mais la peur ne m'empêchera pas de faire ce que je pense être juste.
Just to stop me from doing what's right.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Zilke Dietrich et Anna Osius pour les sons. Vous pouvez vous abonner au podcast de Droits et Libertés sur dw.com/français. Salut et à la semaine prochaine.
Il s'appelle président. Il tient les rênes du pays depuis 10 à 40 ans. Il est élu à 99%, l'ethnie dont il est issu est qualifiée de pur sang. Son pays est soi-disant démocratique, les opposants, les critiques, c'est soit la mort, soit l'exil politique. Il est en place depuis son putsch, son coup d'état. Lui s'est enrichi, mais son pays s'est endetté. Embêtés sont les puissants.